camarades et amis, bonsoir. Je vous souhaite à tous la bienvenue à la fête de lutte ouvrière. Ce rendez-vous est un moment précieux, fait d'échanges fraternels. Camarades et amis, nous tous qui sommes ici, partageons une même indignation face à cette société où l'injustice sociale ne fait que s'accroître. Et nous aspirons à un monde débarrassé de l'oppression, des inégalités de toutes sortes, un monde où l'humanité prendra consciemment son destin en main. Avec la politique de Macron, les inégalités ne feront que se creuser si on n'y met pas un coup d'arrêt. Macron, qui prétend incarner le renouveau en politique, ne fait que mettre ses pas dans ceux de ses prédécesseurs, Sarkozy et Hollande. Il entend bien servir les riches en menant une véritable guerre sociale contre les travailleurs. Avec son style, fait de mépris de classe et d'arrogance, il a tour à tour traité les travailleurs de fainéants et accusé ceux qui manifestent de foutre le bordel. Mais Macron appelle « bordel » les travailleurs qui ne se résignent pas, comme ceux de GMS qui refusent les licenciements de 157 d'entre eux et demandent des comptes à Renault et Peugeot pour lesquels ils travaillent. Les travailleurs de GMS ont raison. Ces grands groupes de l'automobile ont fait des bénéfices records. Leurs décisions, motivées par leur rapacité, ruinent des régions, sèment le chômage et la misère. Alors oui, le bordel, c'est eux et c'est à eux de payer. Depuis 4 mois qu'il est au pouvoir, Macron n'a pas traîné pour satisfaire les exigences patronales, et en particulier celles des grands groupes du CAC 40. Les ordonnances sanctionnent la démolition du Code du travail et font reculer les droits des travailleurs des décennies en arrière. Pour ne prendre que quelques exemples, avec la primauté des accords d'entreprise moins favorables que les accords de branche ou les conventions collectives, les salariés peuvent se voir imposer une baisse des salaires, une diminution du nombre de RTT ou de la rémunération des heures supplémentaires. Le patron peut, sous prétexte de circonstances exceptionnelles, qu'il sera seul à définir, obliger certains salariés à travailler jusqu'à 60 heures hebdomadaires. Refuser ces dégradations des conditions de travail, refuser une mobilité forcée, peut être un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sous prétexte de baisse de commandes ou de chiffre d'affaires, les patrons peuvent licencier sans problème. Des ruptures conventionnelles collectives peuvent être prévues sans proposer de congé de reclassement avec retour direct à la case Pôle emploi. Les ordonnances de Macron aggravent l'exploitation du monde du travail et généraliseront la précarité. Ceux qui subissent déjà cette précarité savent à quel point c'est un handicap pour obtenir un crédit ou avoir accès au logement. Eh bien, en prime, Macron baisse les APL de 5 euros et en réalité de 50 euros l'an prochain. On nous promet que les locataires ne verront pas de différence et que les bailleurs baisseront les loyers. Cette compensation promise est bidon, comme l'est celle qui devrait compenser la hausse de la CSG par la suppression de la taxe d'habitation. Tant pis pour les mairies privées de cette ressource et qui ne pourront plus assumer les services publics à la population, comme le ramassage des ordures, l'entretien des routes, mais aussi les cantines scolaires, l'animation pour la jeunesse. C'est autant d'emplois en moins qui sont menacés et qui s'ajoutent aux plus de 120 000 emplois aidés qui sont supprimés. La fiscalité que Macron veut mettre en place est une usine à gaz qui vise à nous faire les poches et les améliorations promises pour la population sont hypothétiques et remises à plus tard. Par contre, la baisse de l'impôt sur le capital, la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, elle, est immédiate. Les riches n'attendent pas. Les attaques sont lancées tous azimuts et concernent l'ensemble des classes populaires et des travailleurs. Retraités, chômeurs, actifs, travailleurs du public ou du privé. Elles s'ajoutent aux offensives patronales déjà permanentes, l'accélération des cadences, les horaires de travail à rallonge ou encore les menaces individuelles contre les travailleurs et les militants syndicaux. dans ce contexte de crise qui se poursuit, et dans la mesure où les marchés ne s'accroissent plus, le patronat accentue l'exploitation des travailleurs. Et tout ça pourquoi ? Tout ça pour doper les bénéfices des entreprises et la santé des dividendes. Et les bénéfices se sont envolés. Les entreprises du CAC 40 ont engrangé 75 milliards de profits en 2016. Et rien que pour le premier semestre de l'année 2017, elles ont dégagé 52 milliards de profits, soit une hausse de 25%. Cela n'empêche pas Macron de nous servir une vieille rengaine. Il s'agit, selon lui, de créer des emplois. Quel cynisme ! Déjà, dans les années 80, on nous disait « les profits d'aujourd'hui sont les emplois de demain ». Et il n'y a pas longtemps, sous le gouvernement Hollande-Valls-Gataz, le patron du MEDEF avait obtenu, contre la soi-disant promesse de créer 1 million d'emplois, des aides considérables, des baisses de cotisations sociales, les 60 milliards du CICE. Les patrons ont empoché, hein, mais par contre, ils n'ont pas embauché. J'ai failli me tromper. Eh bien, si le gouvernement veut créer des emplois, qu'ils embauchent directement en CDI les 120 000 emplois aidés qu'il met à la rue et qu'il renonce aux 120 000 suppressions d'emplois de fonctionnaires et qu'il embauche dans la santé, l'éducation, la poste, partout où les besoins existent. Des mesures anti-ouvrières, Macron en a d'autres dans ses cartons. Sa politique est décidée dans les bureaux du MEDEF et discutée dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Il en est l'exécuteur zélé. Eh bien, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on mette un coup d'arrêt à ces attaques et qu'on reprenne tout le terrain perdu bien avant qu'il arrive au pouvoir et qu'on reprenne enfin les droits et protections acquis par des générations de travailleurs dans le passé. Les journées de mobilisation du 12 et du 21 septembre, appelées par la CGT, ainsi que celles du 10 octobre, appelées par l'ensemble des syndicats de la fonction publique, ont été un succès. Elles ont été l'occasion pour tous ceux qui ne se résignent pas d'occuper le terrain, l'occasion de discuter d'une question essentielle, comment aller vers une lutte d'ensemble. Une lutte d'ensemble ample et puissante pour faire reculer gouvernement et patronat. Les routiers viennent de montrer qu'il est possible de faire reculer ce gouvernement. Ils craignaient, à juste raison, des baisses de revenus pouvant atteindre 1 200 euros. En se mobilisant, ils ont imposé au patronat du secteur et au gouvernement la signature d'un accord qui garantit le maintien de leur rémunération. Et les ordonnances, bien que signées, ont dû être revues. Ce recul est un encouragement pour tous les travailleurs. Les directions des syndicats qui se sont réunies en début de semaine ne se sont pas mis d'accord sur une journée interprofessionnelle le 19 octobre, comme le proposait la CGT. La responsable de la CFDT a dit qu'elle voulait en savoir plus sur les intentions du gouvernement. Le gouvernement attaque tous azimuts et il faudrait attendre. Cette attitude, comme celle du dirigeant de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, contribue à désorienter les travailleurs. Elle est indigne d'un syndicat digne de ce nom. La CGT appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation le 19 octobre. Il faut se saisir de cette occasion et affirmer que le monde du travail doit viser un mouvement commun regroupant toutes les branches, toutes les catégories, ceux du public comme ceux du privé. Nous sommes quotidiennement confrontés à toutes sortes de résignations et finalement de démoralisation. Les ministres qui se succèdent dans les médias affirment que Macron est élu pour 5 ans et on nous rebat les oreilles sur le fait qu'il est légitime alors qu'il n'a obtenu que 18% des suffrages au premier tour et qu'il faudrait donc se taire et tout accepter. Dans le passé, le régime de De Gaulle était présenté comme un pouvoir fort, contre lequel on ne pouvait rien faire. La grève générale de mai et juin 1968 a fait s'écrouler le mythe du pouvoir fort. Et un an après, il était obligé de partir. La guerre sociale que le gouvernement et les patrons font aux travailleurs va s'accentuer. Il va y avoir de nouvelles attaques, comme celle contre l'assurance chômage et sur les retraites. La crise s'accentue et les grands groupes, pour maintenir les profits élevés, aggravent l'exploitation des travailleurs et leurs exigences à d'autres catégories sociales, comme les agriculteurs, les artisans et les commerçants. Bien des travailleurs voient avec sympathie les réactions de colère, comme celles des paysans ou des producteurs de lait. Mais ces luttes ne peuvent pas remplacer la lutte consciente des travailleurs. Il ne peut pas y avoir de lutte par procuration. Ce qu'on leur cédera, on le prendra dans nos poches. Les états généraux de l'alimentation que Macron a convoqués l'illustrent parfaitement. Les agriculteurs se plaignent de ne pas arriver à vivre de leur travail. Ils se plaignent des prix très bas imposés par la grande distribution. Macron prétend défendre les petits paysans qui vivent avec à peine le SMIC. Un accord entre la FNSEA, le syndicat des grands agriculteurs, les industriels agroalimentaires et la grande distribution a été conclu sous le parrainage du gouvernement pour augmenter les prix payés aux agriculteurs. C'est peut-être nécessaire pour que certains survivent, mais ce n'est pas aux classes populaires d'en payer le prix en passant à la caisse des magasins. C'est au contraire aux capitalistes de l'agroalimentaire et des hypermarchés de rogner sur leurs immenses bénéfices. L'attentisme, la passivité qui laisserait la place à d'autres catégories sociales feraient de nous les premières victimes de mesures gouvernementales. Alors il est vital que les travailleurs défendent leurs intérêts matériels et politiques. Et parce qu'ils produisent toutes les richesses, ils ont la force collective de s'opposer à cette politique de sacrifice permanent. Bien des militants qui, dans le passé, votaient pour le Parti communiste ou pour le Parti socialiste, sont désorientés. Cette désorientation s'est exprimée outre une abstention massive, par une nouvelle poussée du Front National, renforçant ainsi un courant politique férocement anti-ouvrier. Mélenchon, avec la France insoumise, a réussi à recycler les illusions électorales. Il entend rééditer une énième union de la gauche. Dans le passé, Mitterrand, Jospin et Hollande, après avoir promis le changement, ont chacun à leur tour mené une politique anti-ouvrière contribuant à la situation actuelle. Avec Mélenchon au pouvoir, la bourgeoisie n'aurait pas eu plus de soucis à se faire qu'elle en a eu avec Jospin, Hollande ou Mitterrand, que d'ailleurs Mélenchon encense. Mélenchon est peut-être un opposant à Macron, un rival politique, mais pas un opposant à la classe sociale qui dicte cette politique. Il entend gouverner dans le cadre de ce système bourgeois. Mélenchon laisse entendre qu'il est possible d'avoir un bon gouvernement de gauche, qu'il est possible d'en faire ravaler aux plus riches et de concilier les intérêts des travailleurs et de la bourgeoisie. Quand bien même Mélenchon aurait été élu, il dirigerait un appareil d'État entièrement construit pour servir les intérêts de la bourgeoisie. Il aurait, tout comme Macron, respecté la propriété privée des usines, des banques, de la terre. Il se serait incliné devant le capital. La classe ouvrière n'a pas besoin de sauveur. Du fait de son rôle dans l'économie, dans la production, c'est la seule classe qui peut s'attaquer à la racine même des problèmes, à l'organisation capitaliste de la société. C'est sur elle, sur son travail, que repose toute la société. Sans elle, rien ne fonctionne. Les médias ne la redécouvrent que lorsqu'il y a des grèves, quand les éboueurs ne ramassent plus leurs poubelles, quand les cheminots ne font plus rouler les trains, ou quand les postiers ne distribuent plus leurs courriers. Il n'y a que lorsque les travailleurs agissent collectivement pour défendre leurs intérêts qu'ils existent aux yeux de la société. Le monde du travail doit non seulement retrouver le chemin de la combativité, mais aussi celui de la conscience de classe. Mais pour ça, il est nécessaire et vital de reconstruire un parti qui dise clairement clairement qu'il ne sera pas possible de mettre fin au chômage de masse, à la précarité, à l'aggravation de l'exploitation sans renverser ce système capitaliste. Un parti qui, dans toutes les situations, sur tous les sujets et événements politiques, exprimera les intérêts communs des travailleurs en opposant systématiquement son point de vue à celui de tous les autres partis bourgeois qui divisent les travailleurs entre eux et les orientent dans des impasses. Il faut un parti qui soit prêt à s'opposer à la bourgeoisie jusqu'au bout, que rien n'attache d'une manière ou d'une autre à la classe capitaliste ou à ses institutions, mais qui soit au contraire prêt à les affronter, comme l'ont fait des militants ouvriers du passé, qui ont connu la prison pour s'être opposés à la bourgeoisie. Quand les exploités se mettent en mouvement et font l'expérience vivante de leur force collective, cela peut ouvrir toutes les perspectives, comme nous le montrent toutes les révolutions du passé, et en particulier la révolution russe de 1917. Aujourd'hui, un siècle après cette révolution, le capitalisme est toujours là. Mais il pourrit sur pied, engendrant des crises toujours plus aiguës. Tous les spécialistes le disent, la financiarisation de l'économie a atteint un tel degré que nous sommes à la veille d'une crise plus grave encore que celle de 2008. La survivance du capitalisme nous met face à des problèmes insolubles dans le cadre de ce système. Alors que les moyens technologiques, les compétences humaines, les moyens informatiques, scientifiques, les moyens de transport permettraient à chaque habitant de la planète de vivre dignement et de s'épanouir, sans peur du lendemain, on assiste à une régression sur tous les plans. Chacun se demande dans quel monde nous allons vivre. Quel avenir pour l'humanité dans un monde ravagé par des guerres qui s'étendent au Moyen-Orient, au Sahel et peut-être demain en Asie. Ce que les géographes appellent pudiquement des zones grises, c'est-à-dire des pays où règne le chaos, ne font que s'étendre. Chaos consécutif à la mainmise des grandes puissances impérialistes sur ces régions et leurs richesses en minerais, en pétrole. Oui, la barbarie s'étend. Les capitalistes sont animés par une soif insatiable de profit et après eux, le déluge. Tant pis si cela détruit l'environnement, si l'air et les mers sont pollués. Tant pis si la misère, la guerre qu'ils sèment aux quatre coins de la planète poussent sur les routes des millions d'enfants, de femmes et d'hommes vers des pays qui leur ferment les portes. Oui, la barbarie s'étend et nous atteint à travers les attentats qui ont touché Londres, Barcelone, Berlin et tant d'autres villes. Ce centenaire de la révolution russe est pour nous bien autre chose qu'un anniversaire. Il est la preuve vivante de la capacité de la classe ouvrière, des classes exploitées, à prendre le pouvoir et à organiser l'économie, la société, en fonction des besoins de la population et non du profit. La classe capitaliste domine par la force de son argent, de son appareil d'État, mais aussi de son idéologie. On nous inculque qu'il n'y a pas moyen de vivre autrement, que la domination de la bourgeoisie est légitime, qu'elle seule est apte à diriger, qu'elle est tout et que les travailleurs sont rien. Eh bien, en 1917, les travailleurs russes ont rendu vivante cette phrase de l'International « Nous ne sommes rien, soyons tout ». À cette époque, l'Europe était ravagée par la guerre et la barbarie des tranchées. En février 1917, les travailleuses, d'abord, les ouvriers, se soulevèrent, entraînant avec eux les soldats. En l'espace de quelques jours, l'empire tsariste, vieux de 3 siècles, qui paraissait fort et invincible, était renversé. Si la révolution en était restée là, on n'en parlerait sans doute même pas. Mais elle est allée plus loin. Après des mois d'attente que le nouveau pouvoir l'état d'attente, pardon, que le nouveau pouvoir arrête la guerre, règle la question cruciale de la terre, mette fin aux pénuries, la déception fit place à la colère. Face à un gouvernement qui ne voulait pas rompre avec les classes possédantes, organisé dans des comités, les soviets, éclairés par le parti bolchevique, les ouvriers prirent confiance en eux, en leur force, en leur capacité. Ils comprirent que s'ils voulaient la paix, la terre et le pain, ils devraient prendre eux-mêmes le pouvoir. Et c'est ainsi que sur les traces de la Commune de Paris, de 1871, ils bâtirent le premier État ouvrier de l'histoire. La démocratie la plus large existait dans les soviets. Les mesures prises par le jeune État ouvrier sortirent la Russie de son arriération. Il mit à l'ordre du jour l'émancipation des femmes, celle des paysans jusque-là écrasés, celle des nations et peuples jusque-là opprimés, qui avaient enfin le droit de disposer d'eux-mêmes, de vivre de façon indépendante ou de s'allier au pouvoir soviétique. Cette révolution, on peut en être fier. Il nous faut la connaître, c'est notre histoire. La dégénérescence de l'URSS, le stalinisme qui surgit quelques années plus tard, ne peuvent effacer cela. La perspective communiste que les classes exploitées de Russie ont mise en œuvre est la nôtre. Et l'état du monde actuel et son ordre social injuste la rendent plus que jamais d'actualité. Alors vive la lutte des travailleurs du monde entier, vive le communisme. Camarades et amis, avant de passer à un moment convivial autour de la paella, je vous propose de chanter le chant des travailleurs du monde entier, l'International.
Debout les damnés de la terre.